Et les Français ne l'acceptent pas, et de même, les autres pays européens n'acceptent pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 30-40 ans d'observation de la part des peuples européens. Ils ont fait le pari, ils ont fait confiance à leurs élites politiques, intellectuelles, qui leur disaient « vous inquiétez pas, c'est simplement un problème financier, puis un problème de temps ». Et aujourd'hui, nous assistons partout en Europe, mais y compris également au Canada, dont toutes les sociétés d'accueil de ces flux migratoires, à une prise de conscience et un réveil des consciences des citoyens qui se disent « non, non, là, il se passe quelque chose de beaucoup plus grave et on n'accepte plus ce qu'on nous raconte ». Et ça alimente beaucoup le sentiment de défiance envers les politiques, et c'est pour ça que nous avons également à faire face à un divorce consommé entre les élites politiques et les populations, et ça, c'est très préoccupant.
Alors, il y a quand même des gens qui résistent. Je vais vous citer un exemple que vous avez certainement, dont vous avez certainement entendu parler. Je ne sais plus où ce monsieur est maire, de quelle commune, mais dans une commune où des gens d'origine algérienne ont demandé pour leur mariage qu'on enlève le drapeau français de la mairie.
Oui, pour y mettre le drapeau de leurs origines. C'est la ville d'Orléans.
C'est Orléans.
Orléans qui a même édicté une charte. Pour les mariages.
Maintenant, il fait signer aux gens à l'avance qu'ils acceptent le drapeau français. On sourit, mais c'est un peu tragique. C'est du même domaine que la Marseillaise sifflée
au stade
de France.
Vu,
oui, voilà. Ouais. Et ou d'autres exemples. On a beaucoup parlé là, et on va voir ce qui va se passer avec Monsieur Guéant, des prières de rue. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, enfin, c'est pas un documentaire, non, c'était sur Internet. Ces images de la rue des Poissonniers, au moment de la prière, alors évidemment, va être occupée complètement dans toute sa largeur et sur une longueur considérable par ceux qui y prient, et entourée d'une espèce de milice avec des brassards qui disent aux automobilistes qui ont besoin d'aller dans cette rue, ah non, vous pouvez pas, vous repartez. Alors le type, il essaye de se garer. Ah non, c'est interdit de se garer. Et là, on voit un petit peu en retrait la police qui avait les ordres de ne pas faire de conflit et qui attend simplement que ça se passe. Alors, bon, tous ces domaines, la Marseillaise sifflée, le type qui dit pas de drapeau français, etc., il y a quand même des gens qui disent non à ça.
Oui, bien sûr, je pense que nous sommes au début d'un processus, lorsque je dis de réveil des consciences, oui, il y aura, je pense, de plus en plus de résistants, et lorsque je dis ça et que je parle également de Marc Bloch, c'est parce que effectivement, nous sommes de nouveau, parce qu'il y a atteinte aux fondamentaux, comme ça l'a été à d'autres époques de l'histoire de France, nous sommes de nouveau probablement entrés dans une phase où c'est l'histoire qui donnera son mot.
Oui, mais alors...
Parce que ce qui se passe, c'est que, voyez, vous citez les exemples, le Haut Conseil à l'intégration avait en mars 2010 remis un rapport au Premier ministre, puisque nous travaillons sur demande du Premier ministre et du Président de la République. Nous avions remis un avis au Président de la République et au Premier ministre sur les questions qui se posaient sur le terrain au sujet de la remise en cause de la neutralité. Et nous avions à l'époque, dans les recommandations, demandé, donc en mars 2010, que les maires puissent faire en sorte que les voies publiques soient libres et qu'elles ne soient pas occupées. Donc vous voyez, le problème, c'est que le politique, nous voyons là que le politique court après les événements. Alors qu'en réalité, le politique doit anticiper sur les difficultés.
Je vais vous interrompre juste quelques secondes à propos de ça me revient sur cette prière de rue. Vous savez, M. Bouteflika a dit... Chez nous, interdit, on ne fera pas des trucs comme ça, la rue bouchée par la prière,
oui.
En Algérie. Hein.
Tout à fait.
C'est extraordinaire.
Mais c'est très intéressant comme exemple, voilà, parce que dans ce sujet, justement, ce qui s'est passé, lorsque vous parliez à l'instant de l'adaptation de nos sociétés, c'est que le comportement, à cause de la pensée unique, le comportement de la société a changé. Et nous tolérons un certain nombre de choses pour les populations du Sud que jamais nos sociétés auraient toléré pour les Russes, les Polonais, les Espagnols lorsqu'ils sont arrivés en France. Et le comportement de nos sociétés ordonné par une partie des élites, c'est ça qui a conduit aux difficultés que nous connaissons. Nous sommes dans des phénomènes où nous avons cédé sur un grand nombre de principes et nous parlerons de l'école qui est maintenant un chantier ravagé, où l'école est entravée dans l'exercice de sa mission première, la préparation des citoyens. Et aujourd'hui, nous sommes face à cette situation où les personnes venant d'autres qui ne connaissaient pas la société française, ont d'autres façons de fonctionner. On leur a donné un certain nombre de choses et elles ne vont pas lâcher prise si facilement. C'est-à-dire que c'est compréhensible. Si vous permettez un certain nombre de comportements, récupérer un comportement civique sera compliqué, mais il faut que le politique s'y attelle.
Oui, alors vous dites à un moment, au fond, nos politiques vivent dans une espèce de circuit fermé.
Oui.
Et ils sont entretenus là-dedans parce que les citoyens, eux, ils votent pour un tel ou un tel par intérêt, pour leur profit, et pas pour la grande cause, si j'ose dire. Et puis en même temps, vous insistez beaucoup dans votre livre sur la mémoire, l'histoire qui est formatrice de cette identité. Or, qu'est-ce qui se passe? J'entends dire, n'est-ce pas, que dans les programmes scolaires, on va diminuer l'importance de l'histoire.
Oui. Hein,
le président Mitterrand, lui, voulait le développer. Mais aujourd'hui, on dit on va diminuer. Alors, c'est quand même considérablement ennuyeux.
Oui, tout à fait. C'est un comportement qui est dénué de tout esprit de cohérence. Et lorsque je dis ça, ça fait un peu peur, parce que ça veut dire qu'il manque l'esprit de raison dans les décisions. À un moment où, justement, les Français doutent d'eux-mêmes, où le corps politique français n'est plus si évident, c'est-à-dire que les Français prennent conscience qu'ils n'appartiennent plus nécessairement au même corps politique. L'histoire, justement, et l'enseignement de l'histoire, la transmission de l'histoire jouent un rôle important, et c'est là que nous décidons de diminuer l'histoire, l'enseignement de l'histoire. Max Gallo s'est beaucoup élevé contre ces décisions. Nous avons décidé, déjà il y a plusieurs années, d'adapter les programmes, le contenu des programmes scolaires. J'en parle dans mon livre, où Alain Viala reconnaît, c'était le directeur des programmes scolaires en 2000, reconnaît que les programmes scolaires ont été adaptés pour permettre l'intégration d'enfants venus d'autres cultures. C'est véritablement perdre de vue par les politiques l'essentiel, à savoir qu'un politique doit anticiper, se projeter dans l'avenir. Nous manquons véritablement de vision à long terme, et lorsqu'une société n'a pas de vision à long terme, c'est l'effondrement qui la menace.
Alors vous dites c'est pas seulement une insertion qui est nécessaire, c'est plus qu'une insertion.
Ce que je dis par rapport à l'insertion, l'intégration.
Oui,
ce sont des concepts qui sont très importants, que les Français doivent bien assimiler, c'est le cas de le dire, parce qu'on essaie depuis un certain nombre d'années, là aussi c'est en liaison directe avec l'impuissance du politique à agir sur ce qui se passe, on a peu à peu fait glisser le contenu des concepts et on les a vidés de leur substance. L'insertion, je distingue... pour ma part, l'insertion dans la société française et le processus d'intégration qui doit conduire à l'assimilation lorsqu'il réussit. L'insertion, c'est simplement le respect des règles de la société française, et l'intégration, c'est ce dont nous parlions, qui se joue entièrement sur le registre moral effectif, qui font que nous allons faire nation, au sens où Ernest Renan le spécifiait.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Jacques Fischer.
Non, ce n'est pas une émission de reportage sur la musique africaine. C'est parce que nous parlons avec Malika Sorel, qui a écrit un livre qui s'appelle Immigration, Intégration, le langage de vérité, édition Mille et une nuits, c'est-à-dire une succursale, si j'ose dire, de chez Fayard. Nous parlons donc de problèmes de ces migrants qui arrivent, des flux migratoires, de leur intégration possible dans la société française. Je voulais faire entendre cette musique d'un pays que par ailleurs j'aime beaucoup, où je me rends très souvent, qui est le Sénégal. Malika Sorel, vous étiez en train d'expliquer insertion, intégration, c'est pas tout à fait la même chose, et là vous avez vraiment des précisions à donner.
Oui, ce n'est pas la même chose, en ce sens que l'insertion peut être imposée et doit être imposée, car comme je le disais, c'est simplement le respect des règles qui nous permettent de vivre ensemble, le respect des normes collectives, et je voudrais rappeler que les normes collectives sont toujours, dans une société, la traduction concrète de l'histoire politique et culturelle du peuple en question. Donc les normes collectives ne sortent pas du vide, elles correspondent à un processus historique, elles évoluent également dans l'histoire. Et l'intégration, c'est un processus qui va mener, lorsqu'il réussit, à l'assimilation, c'est-à-dire au fait que le migrant s'aperçoit qu'il est désormais porteur d'une identité qui se rapproche davantage de l'identité du peuple de la terre d'accueil que de son peuple d'origine, à savoir son peuple biologique. Et ce qui est très important de mentionner, c'est que lorsque le migrant est assimilé, à son tour, il se met à transmettre à ses propres descendants les codes culturels du peuple d'accueil auquel il s'est assimilé. Et autant l'insertion doit être imposée, autant l'intégration, qui est en réalité le choix de sa propre identité, ne peut être imposée et ne doit pas l'être. Et le processus d'intégration, c'est un processus qui est totalement individuel. On n'intègre pas des populations, ce sont les individus qui, dans leur processus, vont choisir de s'intégrer. Et je voudrais dire que la France a connu ce que signifie obliger des populations à porter l'identité française. C'était l'Algérie française, par exemple, où on disait aux Algériens, voilà, l'Algérie est française, et nous savons ce que ça a donné.